France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la minceur extrême, voire la maigreur qui touche parfois les jeunes filles, adolescentes ou préadolescentes. Le phénomène a pris de l'ampleur ces 10 dernières années sans que l'on sache précisément quel en est le ressort, la minceur extrême étant par exemple beaucoup moins documentée que l'obésité ou le surpoids. Alors pourquoi faut-il regarder du côté du culte de la minceur qui s'étale partout? Publicité, journaux, télé, internet, cinéma. L'extrême minceur serait alors le dévoiement de cet idéal, entre beaucoup de guillemets. On va essayer de comprendre ce soir. Si vous êtes confronté au sujet vous-même ou comme parent, intervenez jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et pour nous joindre, Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le standard 01 45 24 7000. Les invités du téléphone sonne ce soir, Marie-Rose Moreau, bonsoir.
Bonsoir.
Psychiatre, directrice de la maison pour adolescents, maison de Solène à l'hôpital Cochin. Vous avez publié chez Bayard les ados expliqués à leurs parents. Anne Bargiaki, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable de l'unité troubles alimentaires à début précoce à l'hôpital Robert Debray. Et le tour de table se poursuit et passe par Lille dans les studios de France Bleu Nord. Gérard Apfeldorfer, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur France Inter. Psychiatre spécialiste du comportement alimentaire, président de ce qu'on appelle le groupe de recherche sur l'obésité et le surpoids. Alors prenons les choses par le commencement, essayons de définir, Marie-Rose Moreau, de quoi on parle. Minceur extrême, maigreur, jeune fille, préadolescente, adolescente, comment caractériser les choses? De quoi s'agit-il ?
En fait, il s'agit d'une sorte de, plus que d'un élément unique, d'un mouvement, d'une pression, d'une tendance, effectivement, à contrôler de plus en plus jeune son envie de manger, son poids, son appétit, sa gourmandise, le plaisir. Il n'est pas tout à fait vrai que c'est que chez les jeunes filles.
C'est plus chez les jeunes
filles. C'est plus chez les jeunes filles, mais on sent que les garçons sont pris progressivement dans cette même contrainte. Et ça commence de plus en plus tôt. Et ça réapparaît à d'autres âges de la vie. Ça, c'est aussi ce qui signifie, tous ces éléments-là montrent l'importance du collectif. Bien sûr, il y a des choses individuelles, il y a des conflits, il y a des difficultés, il y a un rapport difficile à la nourriture ou au fait de grandir pour certains, mais il reste qu'il y a quelque chose de la société elle-même qui fait une contrainte importante sur le corps des femmes tout particulièrement, sur le corps des filles, et au fond, de plus en plus, sur le corps de tous ceux qui sont en train de devenir adultes.
Anne Bargiaki, quel âge en général pour les premiers troubles de cette nature ?
Alors, dans sa forme la plus fréquente, donc l'anorexie mentale de l'adolescent, on considère que l'âge médian de début des troubles, c'est autour de 12 ans et demi, à peu près. Ce qui est déjà un rajeunissement par rapport à il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Dans le service, nous, on voit arriver des jeunes enfants dès l'âge de 7, 8 ans, qui peuvent avoir un tableau constitué de troubles alimentaires. Ce à quoi on a assisté également, c'est un rajeunissement du pic de fréquence. Avant, on disait que globalement, l'anorexie était plus fréquente entre 15 et 19 ans. Maintenant, on considère que c'est plutôt entre 13 et 18 ans, le grand pic de fréquence.
Et on parle de la même chose, c'est-à-dire que on a là une forme d'anorexie ou on a quelque chose d'autre, une pathologie différente. Alors, comment on peut clarifier les choses?
En réalité, on ne sait pas exactement. C'est vrai que dans l'anorexie dite à début précoce, donc celle qui survient avant le début de l'adolescence ou de la puberté, il y a des spécificités qui font que ça ne ressemble pas toujours à l'anorexie de l'adolescent, mais il y a aussi des cas où ça y ressemble grandement et où ça en est même troublant. On ne sait pas à l'heure actuelle si c'est un continuum d'une même maladie avec des différences liées à l'âge, donc une expression différente parce qu'on est chez des enfants plus jeunes qui n'expriment pas les choses de la même manière, ou si on peut être dans deux entités distinctes. Ça reste un point d'interrogation.
Et donc vous voyez arriver des jeunes gens, de plus en plus jeunes gens, jeunes filles, essentiellement, enfin majoritairement des jeunes filles qui arrêtent de manger, qui se privent, qui ont un rapport distordu au simple fait de se nourrir, c'est ça ? Oui, Marie-Rose Moreau et puis Gérard Feldorfer.
Là, effectivement, il y a des choses différentes. Il faudrait parler au pluriel, en fait. Mmh. On ne peut pas dire l'anorexie, même précoce. Mmh. C'est des formes différentes. Mais effectivement, on voit arriver... Alors, la Maison de Solène à Paris, c'est la même observation. Nous voyons arriver donc des jeunes filles qui... Alors, de plus en plus jeunes, mais qui sont préoccupés depuis longtemps déjà par la question du poids, de la nourriture, de la bonne nourriture, qui parfois d'ailleurs ont eu bébé déjà des difficultés. Et donc là, à ce moment-là, c'est encore une autre forme. Hein. On sait maintenant qu'il y a des formes qui commencent finalement très très tôt. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est des formes au pluriel. Et puis, dans les formes classiques, disons, il y a vraiment cette nécessité de tout contrôler et de ne pas pouvoir se laisser finalement tranquillement aller à ses envies, à ses désirs. Et parfois, ça apparaît après des moments où les adolescents ont été un peu ronds, sans être forcément très obèses, pas du tout, mais juste un peu ronds. La manière dont l'expérience que les adolescentes ont fait dans le regard des autres face à ces petites rondeurs a imposé un régime et puis hop, une transformation dans quelque chose qui vous attrape et qui ressemble à quelque chose ensuite extrêmement difficile, dont vous avez beaucoup de mal à vous défaire, et c'est très sérieux.
Gérard Feldorfer, votre analyse de ce phénomène, une première en tout cas.
Oui, tout d'abord, je pense que pour développer une anorexie mentale grave, il faut avoir des prédispositions. On pense à l'heure actuelle qu'il y a probablement des prédispositions génétiques et qu'il y a des points communs entre les gens qui développent des anorexies mentales graves et les troubles obsessifs compulsifs, par exemple. Donc, il y a un certain nombre de jeunes filles et même d'enfants qui développent des formes d'anorexie où elles vont se centrer sur le contrôle du poids, mais où il y a peu de chances que, finalement, ça devienne une anorexie mentale installée. On a peut-être plusieurs formes d'anorexie mentale, comme il vient d'être dit. Une qui est vraiment très, très, très ennuyeuse, très grave, et qui souvent est extrêmement difficile à guérir. Et puis, une anorexie mentale qui est déclenchée par le discours général dans la société, ce discours de minceur, ce discours de contrôle du comportement alimentaire, ce discours de la performance, et qui fait que de plus en plus d'adolescentes et de préadolescentes développe ces formes de contrôle.
Mmh. Allez, on se dirige vers le standard. Bonsoir Christophe, vous nous appelez de Toulouse, bienvenue.
Ah oui, bonsoir.
On vous écoute Christophe.
Excusez-moi, j'avais mis le haut-parleur.
Pas de problème.
Bonjour Monsieur Demerand.
Bonjour.
On va vous retrouver le matin bientôt. Donc,
c'est un autre problème ça. On vous écoute Christophe, on vous écoute.
Je pense qu'il y a une part des parents qui est très importante dans ce processus des enfants qui se mettent dans cette terrible galère. Et ensuite, il y a les couturiers. Par exemple, Lagerfeld dit comme ça, brûle pour point, les femmes rondes n'ont rien à faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant de 12 ans ou 13 ans...
Il dit quoi, Lagerfeld ?
Lagerfeld, il dit, en gros, les femmes rondes n'ont rien à faire dans le défilé.
Dans le monde de la mode, oui.
Oui, et en fin de compte, même, bon, c'est peut-être un flop ma question, parce que le Toubib qui vient de parler, il y a une question de génétique dans tout ça, mais une enfant de 14 ou 15 ans qui entend dire ça d'un couturier, je ne vais pas rentrer en détail.
Connu et reconnu, bien sûr, et comment est-ce qu'on peut recevoir une phrase d'une telle brutalité Merci Christophe, restez en ligne, je vais demander leurs sentiments aux invités du Téléphone Sonne. Marie-Rose Moreau, une femme ronde n'a rien à faire dans la mode, quand boum, ça tombe comme ça, de manière verticale, caricaturale, comment ça peut être reçu? C'est des phrases qui peuvent produire des ravages.
une femme ronde a toute sa place dans la mode et dans le monde, mais effectivement c'est d'une grande violence, mais c'est d'une grande violence comme toute forme de discrimination, enfin comme toute règle comme ça imposée, parce que c'est on dit à l'autre comment il doit être. Évidemment que les adolescents sont très poreux, sensibles à ces questions. Elles sont blessées aussi par le regard qu'on porte sur elles. Et je disais, parfois, dans des situations où elles ont eu 1 ou 2 kilos, hop, ça devient quelque chose d'objet de moquerie à l'école également. Mais vraiment, il ne faut pas simplifier quand même les choses. C'est-à-dire que pour fabriquer cette tourmente, cette douleur des anorexies et des jeunes filles anorexiques et des garçons anorexiques, j'allais dire, il faut plus d'un ingrédient, quoi. Mais ça, c'est l'ingrédient collectif. C'est quelque chose qui est l'air du temps et qui nous rend d'une certaine façon un peu responsables. Mais ce n'est pas comme ça seulement qu'on fabrique. Mais bien sûr que cet élément-là vient pérenniser, vient rendre comme ce travail des adolescents de trouver la bonne manière d'être, la bonne manière d'être avec les autres, de trouver le bon plaisir, l'échange et tout ça. Bon, c'est rendu difficile par ces contraintes, par ces dictats.
Oui, il y a des injonctions qui circulent et qui sont parfois violentes et brutales. Anne Bargiacki, vous partagez l'analyse ?
Oui, effectivement, sur le fait que c'est un facteur parmi d'autres et que ces idéaux de minceur qui sont véhiculés dans les médias font partie des sources d'insatisfaction corporelle, de mauvaise estime de soi que les adolescents peuvent expérimenter. On voit de la même façon chez les très jeunes enfants d'autres facteurs d'influence. Hein. Il peut y avoir dans leur environnement, par exemple, il y a eu une très jolie étude aux États-Unis qui montrait que parmi les poupées vendues aux États-Unis, 3 étaient à un seuil de maigreur si on regardait quel était leur indice de masse corporelle et que après avoir joué avec ces poupées, les jeunes enfants pouvaient eux-mêmes ressentir des sentiments d'inconfort, de tristesse. Donc c'est quelque chose qui est à prendre au sérieux parce que ça impacte beaucoup leur fonctionnement. Mais effectivement, au milieu de beaucoup d'autres facteurs, et c'est difficile d'avoir une lecture très simple, juste pour dire un mot sur les familles aussi, ça a été dit pendant très longtemps qu'il existait des familles anorexigènes. On en est revenu, hein. On sait que ça n'est pas le cas, qu'il y a des situations familiales extrêmement variées et que un dysfonctionnement familial n'est ni un ingrédient nécessaire, ni un ingrédient suffisant pour déclencher une anorexie. Et qu'au contraire, dans la plupart des cas, on a beaucoup besoin des familles pour travailler autour de la prise en charge. Et c'est des facteurs de ressources et d'aide pour nous, les familles.
Gérard Apfeldorfer, sur la dimension sociale, les injonctions, esthétiques, normatives, les grandes phrases de ce grand philosophe qui est Karl Lagerfeld, quelle est votre analyse ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, nous vivons dans une société de l'image, de la minceur, du jeunisme, et que ça fait beaucoup de dégâts. Et on est aussi dans une société où il faut contrôler ce qu'on mange, c'est-à-dire que la valeur d'un individu est mesurée par rapport à son comportement alimentaire, et le comportement alimentaire est devenu quelque chose qui est moralisé. Il y a les bons aliments, il y a les mauvais aliments. Il y a les aliments qui sont moraux et les aliments qui sont immoraux. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous apprend depuis presque la maternelle et dans l'école primaire, puisqu'on insiste beaucoup sur ce genre de choses, sur cette façon de moraliser l'alimentation. Il faut ensuite pas être tellement surpris que les enfants cherchent à contrôler leur comportement alimentaire pour prouver leur valeur.
Violette, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous nous appelez de Paris, on vous écoute.
Merci. Donc je m'appelle Violette, j'ai 18 ans et j'ai commencé en fait à avoir des troubles du comportement alimentaire quand j'avais environ 12-13 ans. Voilà, je vous entendais parler de l'effet que peut avoir en fait donc les pressions de la société et les médias sur notre façon de nous alimenter. Et je pense que ça a été assez définitif pour moi. Moi, j'ai subi beaucoup en fait la pression de mes parents et notamment ma mère, qui m'encourageait pas mal à mincir, surtout que j'étais assez rondelette vers 12-13 ans. Puis on a vu ça comme quelque chose de très positif en fait, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, on voyait en fait mon amaigrissement comme quelque chose de bien, alors que j'étais pas bien de ma peau. Moi, quelque part, j'avais presque envie de mourir comme ça. Et en maigrissant de plus en plus, quand ça a commencé à être dangereux, à ce moment-là, on a vu ça comme une dérive en fait.
Donc on vous a incité, à le faire, on vous a félicité de l'avoir fait, et mm-hmm. une fois que vous êtes allé trop loin entre guillemets, on vous a dit que vous étiez malade. C'est ça la chaîne un peu folle que vous êtes en train de décrire.
Voilà.
Et donc vous retrouvez coupable de partout et à chaque moment, j'imagine. C'est bien cela ?
Eh bien, oui. Enfin.
Dites-moi non, hein, si je me trompe, Violette. On est là pour vous écouter. Il n'y a pas de problème.
Je vois pas, enfin, non, je me sens, enfin, c'était pas vraiment une accusation, c'est juste que ça paraît pas, en fait, enfin, dans le monde dans lequel on vit, ça paraît pas illogique de vouloir maigrir. Mmh. Et du coup, on peut pas voir facilement où est-ce que c'est sain et où est-ce que ça ne l'est pas. Je veux dire, c'est vrai que j'étais assez rondelette, donc quelque part, enfin, pourquoi pas, quoi. Mmh.
Quand vous dites que, vous avez eu des pensées sombres, que vous vous êtes posé la question de vivre ou de ne pas vivre, c'est intervenu quand et comment, Violette, pourquoi, enfin, quand vous repensez à ça, je sais pas, enfin, excusez-moi, je suis assez ému, hein, par la franchise et la sincérité de votre témoignage. Donc, essayez de nous expliquer pourquoi arrêter de vivre devient à un moment une possibilité.
Il y a un moment, en fait, où j'étais tellement malade que j'avais une espèce de mécanisme de pensée qui était fou, en fait. Et je me disais, c'est pas grave si je meurs, parce que moi, je serais pas grosse. Et ça peut paraître fou comme ça, mais c'est ce que je pensais. Au bout d'un moment, je pense que la perte de poids, elle entraîne aussi une perte des capacités mentales. Et c'est vrai que j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à lire, et j'avais des pensées comme ça qui étaient illogiques et irraisonnées. Mmh.
Vous nous avez dit, Violette, que vous avez 18 ans, que l'anorexie a commencé pour vous à partir de 12. Ça a duré combien de temps ? En êtes-vous sortie ? Comment êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous allez mieux ?
Alors, ça a duré assez longtemps, mais après, il y a eu une période où j'étais vraiment très mal. Mais ça a jamais été critique. On n'a pas dû me mettre de sonde alimentaire ou quoi que ce soit, mais j'ai été hospitalisée. Mmh. Et je pense que c'est surtout ce qui m'a aidée en fait à m'en sortir. J'ai eu besoin de prendre du recul par rapport à ma vie familiale et les influences aussi de mes amis, d'avoir une réflexion sur moi. Mmh. Aujourd'hui. Je vis toute seule. Je vis sans mes parents parce que j'ai du mal en fait parfois à vivre avec eux. Pas forcément à cause de ce que j'ai eu comme trouble, mais je vis toute seule et ça va beaucoup mieux en fait. Mmh. J'ai eu en particulier besoin en fait de prendre de l'autonomie pour réussir à m'en sortir en fait. Mmh. Mais aujourd'hui je vais mieux.
Restez en ligne, Violette. Merci beaucoup. Hein. Merci d'avoir appelé France Inter, de dire les choses de manière aussi simple et sincère. Restez avec nous, Violette. Je vais demander aux invités du téléphone sonne de réagir et éventuellement de dialoguer s'ils le souhaitent avec vous. Anne Bargiaki, vous voulez dire un mot peut-être ?
Déjà, vous remercier pour votre témoignage qui, en plus, je crois, est très éclairant sur nous, ce que l'on peut voir et dans les accompagnements des jeunes qui sont concernés. Je trouve que vous décrivez très bien le cercle vicieux aussi de la maladie, hein, et puis cet effet des premiers temps de la maladie où on a le renforcement positif de l'entourage qui trouve ça positif que l'on perde du poids, et puis en même temps cet enfermement et cette détresse émotionnelle qui va avec. Alors peut-être de mon point de vue de où on s'occupe plus des jeunes enfants, c'est parfois une différence importante avec les adolescents. en ce qui concerne l'hospitalisation en tout cas, puisque nous, ça peut nous arriver aussi d'être amené à hospitaliser de jeunes enfants, mais ils sont dans un cycle de vie qui est différent, qui est moins tourné vers l'autonomie que lorsqu'on a 15, 16, 17 ans. Et donc, on peut rencontrer des difficultés qui sont un peu différentes et qui amènent aussi à devoir être créatif sur les prises en charge et des alternatives à l'hospitalisation. Mais effectivement, ce témoignage est très riche.
Marie-Rose Moreau.
Moi aussi, je trouve que Violette, vous exprimez avec une à fois intelligence et lucidité quelque chose de très très complexe, mais aussi de très profond. Violette le dit. Parfois, on a envie de mourir, on est pris dans c'est finalement l'ensemble de l'appétit qui est touché. Pas seulement l'appétit de la vie, l'appétit pas seulement de ce qu'on mange, et puis la solitude qu'elle a ressentie, Violette, mais aussi comment elle a réussi à en faire quelque chose de positif, c'est-à-dire elle a compris qu'après ce recul de l'hospitalisation, que ce dont elle avait besoin, c'est une autonomie, de décider par elle-même, de trouver la position qui lui convient.
Couper avec la famille, c'est une possibilité ?
Alors, ça... Chaque situation, la famille, c'est très important, même si on se sépare. D'ailleurs, un des traitements dont on a montré qu'il est le plus efficace, quelles que soient les formes d'anorexie mentale, c'est la thérapie familiale. Donc, ça veut dire que l'ensemble de la famille va venir en thérapie, mais parfois, c'est pour se séparer. Mais pour se séparer tranquillement, parfois c'est pour se réunir, parfois c'est pour fonctionner autrement. Mais en tout cas, c'est très très important. Mais en tout cas, Violette, elle a fait ce travail. Alors Violette dit.
Elle vous entend, elle est encore avec nous au téléphone.
Oui. J'ai fait une thérapie familiale par ailleurs.
Ah ben voilà.
Thérapie familiale, d'accord.
Qui vous a aidé ?
Oui, énormément. C'était vraiment très très utile.
Moi je crois que c'est
énormément amélioré mes liens avec ma famille, mes parents et mon frère aussi.
Voilà. Ouais.
Violette, permettez-moi juste une question supplémentaire. Est-ce que vous étiez lectrice de tout ce qu'on peut voir, que ce soit sur Internet, dans les journaux, l'apologie de la minceur, voire de la maigreur, pour le dire simplement. Est-ce que vous étiez sensible à tout ce qu'on peut lire, à toutes les photos qu'on peut voir ? Ça vous accrochait ou pas ?
Alors, en fait, pas particulièrement. Avant ou après, j'ai jamais aimé les magazines féminins et tout ça. J'ai toujours trouvé que c'était un ramassis de conneries. Mais je pense que toutes les influences qu'on peut avoir, ne serait-ce que par la publicité ou le cinéma, ça peut être suffisant déjà pour avoir une certaine apologie de la maigreur. On voit qu'un type de corps dans les médias. Et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être déjà obsédé par la mode ou les magazines. Je pense.
Restez avec nous, Violette. Si vous voulez terminer l'émission et vous y inviter, vous êtes cordialement bienvenue. Vous avez une très belle voix en plus, Violette, et on sent que c'est la voix de quelqu'un qui va bien. Et ça fait un immense plaisir. Vraiment, restez avec nous. Je donne la parole à Gérard Appeldorfer.
Oui, enfin bon, je ne vais pas encenser encore une fois Violette, effectivement, qui a bien décrit tout ce qu'on peut ressentir. Et qui parle un petit peu de cette extinction finalement de la vie, enfin finalement et de l'attirance de la mort. Alors, puisqu'on parlait des choses que l'on pouvait lire, je propose une lecture. Il y a Amélie Nothomb qui est un écrivain qui n'a jamais caché qu'elle était passée par l'anorexie et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Catilinaires et que je conseille souvent à mes patients anorexiques parce que ça leur montre. Cette extinction de la vie, cette vie au ralenti, sans plus d'énergie. Et elles comprennent alors dans quel piège elles tombent.
On retourne au standard. Mathilde, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci beaucoup. Moi, j'ai 22 ans. J'écoute votre émission avec beaucoup d'émotion parce que je suis passée par là quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai été anorexique pendant... Enfin, de 14 à 17 ans à peu près. Et en fait, moi, j'aimerais surtout en fait donner un peu un message d'espoir aux familles et aux malades, parce que quand j'ai été moi-même malade, j'avais pas vraiment d'exemple de personnes qui avaient guéri. Et je pensais que la guérison était impossible. Je pensais qu'on guérissait un peu à moitié, qu'on allait mieux et qu'on rechutait et que ça allait être ça jusqu'à la fin de ma vie. et j'aimerais simplement dire que on guérit complètement. Mmh. Et voilà.
Qu'est-ce que, comment vous avez fait, vous, Mathilde? Comment ça s'est passé, la sortie de l'anorexie vers une vie, je veux pas dire normale, mais une vie en tout cas où il n'y a pas ce problème-là?
C'est un long et douloureux chemin, premièrement. Mais j'ai été très soutenue par ma famille d'abord. Et ensuite, je pense qu'il faut également être suivi par un psychiatre ou par un psychologue. C'est plus que nécessaire. Mmh. Moi, j'ai été longtemps suivie. Et également mon médecin à l'hôpital que j'allais voir régulièrement. Mmh. C'était très important pour moi. Voilà. Et puis autrement, il faut avoir des projets. Moi, c'est ce que disait toujours mon médecin et c'est ça qui m'a permis de sortir de la maladie. C'est de sans cesse prévoir des choses dans ma vie, des voyages, des lectures, etc.
Merci beaucoup Mathilde pour cette intervention essentielle. On en sort, on est guéri, nous dit Mathilde Marie-Rose Moreau.
Ah oui,
c'est
alors...
pas un destin qui s'est abattu sur soi à un moment, on peut en sortir.
Non, c'est pas un destin, on en guérit et on a fait d'ailleurs beaucoup de progrès ces derniers temps là-dessus. Mais il en reste pas moins qu'il y a des chemins multiples, c'est-à-dire parfois on guérit en une seule fois comme ça, c'est long, un suivi psychiatrique, parfois une psychothérapie, parfois des médicaments, une thérapie familiale. Mais puis hop, on en sort. Et dans d'autres situations, il y a des rechutes et ça recommence. Et il faut se resolidifier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de chemins.
Mais il y en a un au moins.
Mais il y en a un. Mais moi, dans les deux
Mathilde
beaux témoignages de Mathilde et de Violette. Et en particulier dans celui de Violette, je retiens aussi l'importance d'intervenir assez tôt, mmh. Parce que c'est très sérieux, quoi. C'est vraiment pas quelque chose comme ça de l'ordre de la volonté, oui, non, je peux, je veux. Non, c'est vraiment. Et donc, c'est cette nécessité de reconnaître, de sensibiliser, de prendre au sérieux.
Mmh. Vous voulez ajouter un mot, Violette, puisque maintenant vous êtes invitée du téléphone sonne, donc vous pouvez réagir quand vous voulez, hein.
D'accord. Je vous écoute attentivement. C'est très intéressant et très émouvant aussi pour moi. Enfin, par rapport à ce que vous disiez l'impératif en fait d'agir tôt. Moi, je repense à ce moment quand j'étais hospitalisée. J'étais dans un service en fait qui était spécialisé dans les adultes. J'étais à Montessori, je crois. Mm-hmm. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ça semblait.
Montsouris.
Oui, c'est ça.
Voilà, ouais.
Et ça semblait beaucoup plus compliqué en fait pour les femmes qui étaient déjà adultes et qui avaient déjà une vie de famille et des enfants parfois même, de changer en fait des habitudes qu'elles avaient eues tout au long de leur vie presque.
On retourne au standard. Restez avec nous, Violette. Emeline, bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue. On vous écoute, Emeline.
Merci.
Emeline, pardon.
Oui, juste, je voudrais témoigner pour mon jeune garçon. Qui a 10 ans et qu'on a diagnostiqué anorexique il y a 6 mois. Je voudrais surtout lui dire, s'il écoute, qu'on peut être très très fier parce que c'est une énorme souffrance. Et ces gens qui font ça, c'est pas juste la volonté, tu manges ou tu manges pas. Ils portent en eux une terrible, terrible souffrance. Et de voir un petit garçon se battre comme ça à 10 ans et remonter la pente et sourire et reprendre du poids puisque mon fils a perdu un quart de son poids. Je veux que les parents et que les personnes qui sont autour sachent qu'elles sont nécessaires et qu'elles ont absolument besoin d'être là pour eux le mieux qu'elles peuvent parce qu'on regarde quand même son enfant en train de mourir à chaque repas. Voilà. J'ai entendu aussi mon fils dire voilà, regarde maman, c'est la seule chose que j'arrive à faire correctement. Il y a aussi une fierté dans cette perte de poids. Et qu'il faut prendre en compte toutes ces choses-là, être là, être présent. Mmh. J'ai entendu aussi, je fais vite.
Non, allez-y, prenez votre temps, Emeline.
J'ai entendu parler de troubles obsessionnels. Moi, j'en ai souffert pendant 30 ans. J'ai reconnu chez lui quand c'est apparu des choses. Et notamment la violence de cette souffrance et cette solitude parce qu'on est tout seul. Et je crois qu'il faut vraiment en tenir compte et qu'il faut être là pour ces gens et écouter ces enfants et ces adolescents, les écouter, on ne les écoute pas assez. Ni à l'école, je suis enseignante, ni au collège, ni plus tard. Juste les écouter.
Je trouve que c'est très important. Mon fils va mieux. J'ai peur pour la suite parce que je me demande ce qu'il fera après, s'il va retrouver cette structure. Mais je l'ai vu se battre et gagner. Et on peut être fier de ces gens qui se sortent de cette chose-là. Mmh. Voilà.
Marie-Rose Moreau, Anne Bargiaki, voulait dire un mot à Emeline ?
Alors oui, effectivement, sur la fierté, sur aussi peut-être dire que quand on a souffert d'anorexie, qu'on en guérit, on est souvent quelqu'un de capable de pugnacité, de se fixer des objectifs à long terme et que toutes les choses qui ont pu à un certain moment donné sous-tendre la maladie, y participer ou faire qu'elle était plus forte sont aussi des grandes qualités qui seront très utiles avec la guérison. Et puis la difficulté, alors là c'est même la double peine, hein, quand on est un garçon de 10 ans, alors d'une part l'anorexie masculine est plus rare, comme vous le disiez tout à l'heure, et donc souvent mal dépistée. Et puis l'anorexie à 10 ans, c'est aussi mal dépistée. Donc parfois, c'est très compliqué de faire reconnaître, de faire prendre en charge. Et ça peut être des moments très éprouvants pour les familles, ce temps-là. Et c'est important, justement, de parler de cela.
Marie-Rose Moreau voulait dire quelque chose à Emeline, qui est encore avec nous au standard.
Oui, je voudrais dire à Emeline l'importance du soutien parental, effectivement, pour en plus, si tôt, c'est si petit, l'importance. Alors, Emeline disait qu'elle reconnaissait aussi chez son fils des choses qu'elle avait vécues sur la question des rituels ou des choses comme ça. Et donc, je crois que cette sensibilité, hein, parce que bien sûr qu'il y a il y a des liens, il y a des passages entre toutes ces souffrances il est vraiment très très important que les parents vivent ça comme, enfin comprennent et accompagnent et ne se sentent pas coupables parce que il y a personne de coupable dans cette affaire, ni les enfants, mais encore moins les parents, personne. Et il faut se battre collectivement. Il faut parfois, je le disais déjà tout à l'heure aussi, même parfois aller en soin tous ensemble.
Emeline, Violette, restez en ligne dans ce téléphone sonne. On va accueillir Camille. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
J'entends une voix jeune. Tu as quel âge ? Je me permets de te tutoyer.
Alors, j'ai le même âge que Violette, j'ai 18 ans.
Oui.
J'appelle parce que son témoignage, il m'a un peu interpellée. J'ai été anorexique pendant 4 ans. Et je suis sortie tout récemment de l'hôpital. Je me suis fait hospitaliser. Je suis sortie en mai. Et mai dernier, je me suis hospitalisée 5 mois à Paris. Mmh. Et en fait, je voulais intervenir parce qu'à un moment donné, vous avez mis en exergue l'idée que la société pouvait effectivement influer sur cette maladie et sur les jeunes qui en souffrent. Et je voulais dire que, moi personnellement, lorsque je suis rentrée dedans, c'était une volonté de vincir, mais je pense que c'était surtout une volonté d'avoir le contrôle sur quelque chose qui m'échappait à un moment donné où je changeais vu que j'étais dans l'adolescence et que c'était ma puberté. Et en fait, je me suis installée dedans. La manière dont je me comportais, on va dire, au niveau alimentaire, j'étais comme confortée dans mes idées à cause de ce que la société pouvait dégager, et notamment les campagnes publicitaires par rapport à le fait qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, le fait qu'il faut faire attention à manger sainement, à savoir d'où viennent les produits qu'on mange, etc.
Camille, tu le recevais, je dirais, comme si c'était un message qui t'était directement adressé à toi.
Ah ouais, exactement. Moi, j'étais dedans à fond, et dès qu'on parlait de manger sainement, de savoir d'où les produits venaient, d'adopter un régime, ne serait-ce que, un régime végétarien, voire végétalien, pour moi, c'était, ça me confortait carrément dans l'idée qu'il fallait que je me restreigne, j'étais en restriction totale et plus les mois passaient, plus il y avait une espèce de tendance autour de ces régimes alimentaires-là et plus moi je me confortais dans ma situation et dans le régime drastique que je m'imposais. Et donc en fait j'en ai conclu que finalement il y a une espèce de confusion qui est en train de se créer entre la qualité de l'aliment qu'on mange et la qualité nutritionnelle. Et ça, les jeunes filles aujourd'hui et même les jeunes garçons, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, en fait, parce que ce qui compte, c'est, ils sont en train de confondre les deux, ce que l'apport que peut donner, on va dire, au niveau des nutriments, l'aliment, et la qualité, d'où ça vient. Il y a une grosse confusion par rapport à ça. Et la tendance qu'il y a autour de ça, je trouve ça très malsain.
Violette voulait dire un mot à Camille ou vice versa?
Non, je me reconnais exactement dans ce que Camille dit, en fait. Moi, c'était la même chose. Ouais. Mmh. Plus j'avais l'impression, enfin, plus je mangeais bien, plus j'avais l'impression d'être quelqu'un de bien, presque. Donc, au fond, il y a très peu de choses qui peuvent, enfin, à part la détérioration de la santé, c'est vrai qu'il y a très peu de choses qui peuvent nous dire d'arrêter et nous empêcher de faire ça, quoi.
Camille?
Oui. Après, moi, c'est vrai que le manger bien, c'était pas trop ça, en fait. C'était plus, c'était effectivement la tendance qui est autour du fait de manger sainement, etc. Et en fait, à partir de là, il y a une espèce de, on confond tout, quoi. On se dit, bon, s'il faut bien manger, dans ce cas-là, j'enlève ça. Et puis, en fait, on fait plus attention, on fait pas en sorte on fait pas attention et après on arrête de manger et on est conforté dans notre situation et puis on se dit bon on maigrit, c'est bien, etc. Enfin, il y a une énorme confusion qui se fait et je trouve que la tendance aujourd'hui par rapport à notre comportement alimentaire, il est hyper malsain et tellement pour moi c'est une mode, quoi. Les gens qui c'est pas forcément une volonté, on va dire, c'est pas un choix moral, ça devient une mode, c'est-à-dire faut plus manger de viande et puis alors c'est vraiment une mode, c'est quelque chose, enfin on le voit bien, moi ne serait-ce qu'il y a deux jours je vais dans un Monop, je vois un t-shirt où il y a marqué vegan healthy, donc sain et bio. Enfin, j'ai envie de dire, mais c'est pas parce que c'est vegan que c'est sain. Enfin, ça peut être très bien carnivore et ça peut être très sain aussi.
Merci Camille pour ton intervention au micro de France Inter. Merci beaucoup Violette d'être intervenue aussi et d'être restée avec nous jusqu'à maintenant. Merci à Emeline et bon courage à elle, bon courage à son petit-fils, à son petit gars. Merci aussi donc d'être intervenue avec autant de franchise du fond du cœur. Merci amis auditeurs d'Inter. Cette émission vous appartient et c'est toujours bouleversant de vous entendre partager avec nous des expériences aussi intimes et douloureuses. Merci à nos invités. Le journal est à suivre.